Deutsche Welle. Droits et libertés.
Cette semaine, nous allons faire un tour en Guinée où le pays se prépare à voter pour la présidentielle, pour un tour d'horizon de la situation des droits de l'homme dans le pays. Et puis aussi en RDC où l'ONG Human Rights Watch préconise une réforme en profondeur de la justice en s'appuyant notamment sur les manquements du procès Minova. Sandrine Blanchard au micro, bonjour à tous. La Guinée d'abord, en amont de la présidentielle et parce que le pays a connu de graves violences lors des scrutins précédents, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen et ses partenaires de la FIDH et du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme ont formé 200 moniteurs choisis parmi les militants défenseurs des droits humains à travers le pays. Ils seront chargés de veiller au bon déroulement de la présidentielle et de rapporter d'éventuelles violations des droits de l'homme. Explication de El Hadj Malal Diallo, secrétaire général de l'OGDH.
Avant les élections, ils vont suivre par exemple le processus de distribution des cartes électorales. Le jour des élections, ils vont participer, ils vont surveiller le déroulement du scrutin. Et après aussi les élections, parce que c'est avant, pendant et après. Ils sont outillés pour essayer de faire remonter à temps des informations éventuelles sur les violations des droits de l'homme. Et au niveau de Conakry et au niveau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, on essaie d'analyser et de tirer tout au clair pour d'abord faire cesser, si c'est possible, les violations, ou bien ensuite les documenter et éventuellement suivre la procédure judiciaire normale.
Alors, si vous avez mis en place cette formation, c'est que vous craignez qu'il y ait des violations des droits de l'homme autour du scrutin ?
Il n'est pas garanti que tout ira comme sur des roulettes.
Parmi les violations et les crimes graves qui ont été dénoncés, notamment par des organisations internationales de défense des droits de l'homme comme Human Rights Watch cette année en Guinée, il y avait les violences et le recours excessif à la force des forces de sécurité guinéennes. Est-ce que, à votre avis, il y a un risque qu'il y ait des manifestations violentes autour des élections à nouveau ?
Ça peut arriver, mais je crois qu'il y a un effort quand même, un effort de redressement des forces de défense et de sécurité. Ça va quand même avoir un impact.
Cette année, il y a eu quand même des violences graves, même à Conakry, notamment dans le quartier de Sonfonia, où les forces de sécurité et de police, là encore, ont été accusées d'être corrompues, de ne pas être neutres dans le processus politique, de recourir à des injures ethniques, notamment. Et vous pensez que, en quelques mois, c'est un problème comme ça qui peut être réglé ?
Bon, nous espérons que, avec les réformes entreprises, la réforme de la justice et la réforme des forces de défense et de sécurité, nous ne disons pas que ça va cesser. Du coup, ben, nous attendons à des améliorations.
En Guinée, Ces dernières décennies, quand il y avait des élections, souvent, il y avait aussi la résurgence de tensions ethniques et de propos politiques très très liés aux origines géographiques des candidats ou des militants des partis. Est-ce que c'est quelque chose qui existe encore en Guinée en 2015 ?
Là aussi, ça tend à s'améliorer. Les tensions ethniques et tout ça, ça n'existe pas. Ça ne ressort qu'au moment des campagnes électorales et tout ça. C'est un phénomène qu'il faut relativiser.
Qu'en est-il de l'enquête concernant le massacre du 28 septembre ?
Bon, la justice est en train de travailler. Il y a des personnalités inculpées. Le capitaine Moussa Dadis Camara, qui était le chef de la junte au moment des faits,
actuellement en exil à Ouagadougou.
En exil à Ouagadougou, a été inculpé par la justice guinéenne. Et nous, Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, nous sommes partie civile à ce procès. Peut-être que en 2016, après les élections, on aura un procès.
Et vous êtes confiant, donc la justice guinéenne, selon vous, est assez forte, assez indépendante pour permettre de faire toute la lumière sur les responsabilités, mais aussi de dédommager les victimes et d'entendre des témoins en garantissant leur sécurité?
Nous souhaitons que ce procès ait lieu en Guinée, parce que s'il faut que la Cour pénale internationale intervienne à ce niveau, nous ne pourrons interroger, nous ne pourrons juger que quelques personnes, alors qu'il y a beaucoup d'acteurs, on ne peut pas transporter tout ce monde-là ailleurs pour le jugement.
Et par ailleurs, pour ce qui concerne les droits de la femme, elle en est où la Guinée en 2015?
Les droits de la femme?
Oui.
Bon, il y a quand même une tendance à l'égalité.
Ah ben vous êtes optimiste alors, ça veut dire que la Guinée serait un des rares pays au monde à respecter ses engagements en ce domaine.
Bon, écoutez, bon, il y a des problèmes. Ça c'est sûr. Par la loi, la femme et l'homme sont égaux devant la justice.
Hein? Oui.
Le problème de respect de ses droits, c'est ça, c'est ce problème qui se pose. N'est-ce pas?
Justement.
Donc, il y a ici ce qu'on appelle une case de veille qui est animée par les femmes qui sont aussi en train de surveiller tous les aspects de défense des droits de l'homme et de la femme.
En République démocratique du Congo, le procès dit de Minova, dans lequel 39 militaires ont dû répondre devant une cour militaire de viol et pillage de masse durant 10 jours dans un village, ce procès a marqué les esprits. Mais l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch dénonce de nombreux manquements dans la procédure. L'ONG reconnaît les efforts fournis par la RDC, notamment pour garantir la sécurité des témoins. Mais elle estime que le procès Minova a montré le manque d'expertise des enquêteurs et des magistrats pour juger des crimes d'une telle ampleur. Par ailleurs, la procédure a mis à jour la volonté d'épargner certains responsables haut placés. C'est pourquoi Human Rights Watch préconise de tirer les leçons de ce procès malmené et de revoir de fond en comble le système judiciaire congolais, notamment pour ce qui est des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Interview avec Géraldine Mathioli-Tseltna, directrice du plaidoyer dans le programme Justice internationale à Human Rights Watch.
Il y a, je dirais, trois séries de problèmes principaux qui expliquent un verdict vraiment décevant dans ce procès. Tout d'abord, un manque de qualité des enquêtes, où on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un manque d'expertise de la part des enquêteurs et des procureurs de la cour militaire. Toutes les personnes à qui on a pu parler nous ont dit qu'il n'y avait pas de preuves qui étaient apportées pendant les audiences. D'après nos recherches, même si les enquêtes avaient été de bien plus grande qualité, il se posait probablement quand même un problème de volonté de poursuivre les plus hauts commandants. Et puis le troisième gros problème, c'est un problème de respect des droits des accusés, puisqu'il y a un certain nombre de soldats qui ont été condamnés à des lourdes peines de prison, 10 ans par exemple, alors qu'il n'y avait vraiment pas de preuves tangibles quant à leur implication par exemple dans les pillages.
Toutefois, vous relevez certains aspects positifs de la procédure.
Oui, parce qu'il faut bien voir que le Congo, c'est un des seuls pays peut-être au monde où on commence à avoir des poursuites pour crimes de guerre, pour crimes contre l'humanité. Donc il y a une certaine expérience qui se met en place. Pour vous donner un exemple, la protection des victimes et des témoins, qui est un défi très important dans une zone de conflit, c'est plutôt bien passé. Les juges ont pris des mesures très progressistes qui font penser à des mesures prises devant les tribunaux internationaux. Par exemple, les noms étaient codifiés. Les juges et les procureurs ont aussi appliqué directement le statut de Rome. Et donc, ça souligne l'importance de réformer, en fait, la justice pour que ça marche mieux aussi au Congo et que ça puisse compléter le travail de la CPI.
Et justement, en matière de réforme, vous recommandez notamment la constitution d'une sorte d'unité internationale qui serait chargée de suppléer la justice nationale ?
Alors, on a deux recommandations, je dirais. La première, c'est une recommandation qui n'est pas la nôtre, mais qui est une proposition du gouvernement congolais, qui est de, en effet, créer ce système internationalisé, c'est-à-dire soit une cour, soit une chambre, mais qui inclut des juges et des procureurs internationaux.
Ce serait un petit peu sur le modèle de ce qui s'est fait à Phnom Penh, au Cambodge ?
Voilà, c'est ça. Le système judiciaire national avec des experts internationaux.
Cela dit, pardon, mais au Cambodge, on a vu que les magistrats cambodgiens, et puisque le tribunal était encore subordonné à la législation nationale, les magistrats et les juges cambodgiens qui participaient à ce tribunal étaient quand même très dépendants des autorités cambodgiennes.
C'est ça. En termes d'indépendance, il faut faire très attention à la façon dont les lois créant ce type de mécanisme sont formulées. L'autre proposition qu'on a, qui est un peu distincte, ce serait la création d'une unité spécialisée dans les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, comme la Côte d'Ivoire, la République centrafricaine, l'Afrique du Sud, qui ont créé ce type de pôle. L'idée, c'est de regrouper des enquêteurs et des procureurs qui ne font que ça.
Simplement, ce que vous pointez aussi dans votre rapport, une fois de plus, c'est le règne de la corruption et de l'impunité en RDC encore beaucoup aujourd'hui.
Oui, les problèmes de corruption ou d'ingérence restent extrêmement importants. Clairement, il y a des personnes qui sont protégées en République démocratique du Congo et contre lesquelles il est vraiment difficile d'intenter les procédures judiciaires.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Elhadj Malal Diallo, secrétaire général de l'OGDH à Conakry. Et puis à Géraldine Mathieu-Litzeltna, responsable du plaidoyer Justice internationale à Human Rights Watch. Si vous souhaitez nous écrire, adressez votre courriel à français@dw.com sans la CDI à français, comme d'habitude. Salut et à la semaine prochaine.
Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fera baisser la fièvre.